Daphnoun Tet Amoudalef, en haut du Hamoud. On avait vu plus haut dans la Gemara qu'il y a certaines sortes de clochettes qui sont faites pour faire du bruit, pour tinter. Et la Gemara avait rapporté une braïta qui dit que si ces clochettes ne sont pas terminées, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mis de battant à l'intérieur, elles ne reçoivent pas la Touma. Mais si on a déjà installé le battant, elles reçoivent la Touma. Et la Breta a ajouté que si elles avaient un battant mais que le battant a été enlevé, elles continuent quand même à recevoir la Touma, et si elles avaient déjà reçu la Touma, elles sont toujours tamées, elles ne deviennent pas Tahor. Et la Gemara a posé la question, si on a enlevé le battant, à quoi ça peut servir? Puisque ça ne sert à rien, ça ne devrait plus être considéré comme un Keli, donc ça devrait perdre sa Touma si c'était déjà tamé, et ça ne devrait plus recevoir la Touma si c'était pas encore tamé. Et Rava a répondu que, comme on peut encore les utiliser, même sans battant, pour les faire teinter en les cognant contre un bout d'argile, donc elles peuvent encore servir à leur utilisation d'origine, c'est-à-dire à faire du bruit, à teinter, et donc elles continuent à recevoir la Touma, et si elles sont tamées, elles sont toujours, si elles étaient tamées, elles sont toujours tamées, elles ne perdent pas leur Touma. La Gemara a dit, Itmar Nami, on a également enseigné, Marabi Yosef Barabi Hanina, donc Rabbi Yossi Barabi Chanina a dit aussi que ça reçoit encore la Touma, c'est encore considéré comme un Keli qui reçoit la Touma et ça ne perd pas sa Touma si c'était déjà tamé, puisque on peut la faire teinter contre un bout d'argile. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan donne une autre explication, il dit Oil Veraou le Gamea Bomaim Latinok, parce qu'on peut utiliser cette cloche pour faire boire de l'eau avec un petit enfant. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan pense que même si on ne peut pas l'utiliser pour la même utilisation que celle d'origine, c'est-à-dire pour faire du bruit, mais comme il y a une autre utilisation qui est possible, qui est de faire boire de l'eau à un petit enfant, c'est encore considéré comme un keli pour recevoir la Touma. La Gemara demande Rabbi Yochanan l'obaye me'en melacha rishona. Donc, la Gemara s'étonne, mais est-ce que Rabbi Yochanan ne pense pas qu'il faut que ça puisse encore servir à l'utilisation première? Donc ça veut dire ici à faire du bruit, à la faire teinter. Ve'atania, pourtant on enseigne à Breta, ve'chol keli asher yeshev alav ve'gomer. Donc ce pasouk parle de la touma de midras du zav. La touma de midras, c'est lorsque un zav s'assoit ou s'allonge sur une chaise ou sur un lit, même s'il ne les touche pas, parce qu'il y a quelque chose qui le sépare du lit ou de la chaise ou le lit reçoivent la Touma, ils deviennent Avatouma comme le Zav. Donc c'est ce qu'on appelle Toumat Midras. Et la Braïta dit, Yachol kafa se'a ve'yashav alea, kafa tarka ve'yashav alea yehetame. On aurait pu penser que s'il a retourné une se'a c'est un ustensile qui sert de mesure pour mesurer la taille d'une se'a, le volume d'une se'a de céréales. S'il l'a retourné et qu'il s'est assis dessus, ou qu'il a retourné un tarkav, donc c'est une autre mesure qui fait une demi-sea. Tarkav, c'est une demi-sea. Tarkav, ça veut dire très vécave, donc deux cabines et un cave, donc trois cabines. Dans une sea, il y a six cabines, donc c'est un demi, une demi-sea. Donc s'il a retourné un tarkav et qu'il s'est assis dessus, on aurait pu croire qu'il est tamé, parce que ça lui a servi de siège. Talmud Lomar, Asher Yeshev Alavazav. Donc le pasouk dit Asher Yeshev Alavazav, donc au futur et pas au passé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Miche meyuchad le yeshiva, seulement quelque chose qui est fait pour s'asseoir. C'est-à-dire que si c'est écrit Asher Yashav Alav, sur lequel il s'est assis, donc on aurait dit n'importe quel objet sur lequel il s'est assis, il reçoit la Touma de Midras. Mais comme c'est écrit Asher Yeshav Alav, sur lequel il s'assiera, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il s'assoit tout le temps. C'est pas qu'on l'a utilisé, qu'il l'a utilisé occasionnellement pour s'asseoir dessus, mais que c'est destiné à ça. Yatzaze sheomrim lo amod venaase melartenu, ça exclut ces choses-là, donc la Sea ou le Tarkav, qui lui disent, c'est-à-dire c'est comme s'ils disaient aux Av, lève-toi pour qu'on fasse notre travail. Ça veut dire que on ne le laisse pas s'asseoir dessus, puisque il doit servir à autre chose, donc on lui demande de se lever pour pouvoir utiliser ces objets pour l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Alors, en plus de ce din de la Touma de Midras, là on parle de ce qu'on appelle Trilat Touma, c'est-à-dire pour recevoir la Touma de Midras, il faut que ça soit destiné à ça, que ce soit leur utilisation, que ce soit pas une utilisation occasionnelle. Il y a un autre dîn par rapport auquel on dit amod venaaseh melachtenu, c'est par rapport à sauf touma. Ça veut dire, par exemple, dans le cas du toujours dans le cas du midrash du Zav, si c'était une natte qui faisait trois tfachim sur trois tfachim, donc elle était faite pour s'asseoir dessus. Donc, si le Zav s'est assis dessus, elle a reçu la Touma du Zav. Elle est devenue Tamé, elle est devenue Tamé Midras. Et donc, elle est devenue Ava Touma. Si cette natte a été coupée en deux, donc elle fait plus trois Tfachim sur trois Tfachim, donc elle ne peut plus servir à s'asseoir dessus, elle perd sa Touma, parce que là aussi, on utilise ce principe de Hamad Venaaseh Melachtenu, ça veut dire que ici, c'est dans le sens où on dit que elle ne peut plus servir à son utilisation d'origine, et donc elle perd sa Touma de Zav. Bien que elle est encore considérée comme un Keli, et elle peut recevoir la Touma, elle peut recevoir une autre Touma, du moment qu'elle fait 3 Etzbaot sur 3, mais par rapport à la Touma du Zav qu'elle avait, elle l'a perdue. Et à ce propos, il y a une machloket entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar Omer, Bemidrasot omrim amod venaaseh melachtenu, ven omrim betamemet amod venaaseh melachtenu. Ce principe de amod venaaseh melachtenu, on le dit uniquement par rapport à la Toumat Midras, mais par rapport à la Toumat Met, on ne dit pas amod venaaseh melachtenu. Ça veut dire, il parle toujours par rapport à ce cas de sof Touma, quelque chose qui avait reçu la Toumat Met, un Keli qui avait reçu la Toumat Met et qui s'est cassé, et qu'on ne peut plus utiliser pour son utilisation d'origine, même s'il a une autre utilisation, mais il a perdu la Toumat Met. Alors, par rapport à Trilat Touma pour la Toumat Met, c'est sûr que là, même si c'est pas destiné à une utilisation particulière qui est liée aux morts, tout Keli reçoit la Toumat Met. Ça veut dire que c'est pas comme la Toumat Midras, où il faut que ça soit fait pour s'asseoir ou pour se coucher. Pour la Toumat Met, n'importe quel Keli, quel qu'il soit, reçoit la Toumat Met. Donc, par rapport à Trilat Touma, ça, c'est évident que le dîn de Toumat Met est différent du dîn de Toumat Midras. Mais là, Rabbi Lazar parle par rapport à Sof Touma, c'est-à-dire un objet qui avait déjà reçu la Toumat Met et qui s'est cassé, qui ne peut plus servir à son utilisation d'origine. Rabbi Lazar pense que, malgré tout, ça conserve la Toumat Met. C'est seulement par rapport à Toumat Midras qu'il faut que ça puisse servir à l'utilisation d'origine. Rabbi Yochanan, alors que Rabbi Yochanan dit, Afomer betamemet amod venaaseh melachtenu, par rapport à Toumat Met aussi, on dit amod venaaseh melachtenu, ce principe de amod venaaseh melachtenu, qui dit que si le keli s'est cassé et ne peut plus servir à son utilisation d'origine, même s'il peut servir à une autre utilisation, il a perdu sa Touma. Donc comment se fait-il qu'on a dit précédemment que Rabbi Yochanan dit que si cette cloche peut servir à donner à boire à un enfant, c'est pour ça comme cette cloche peut servir à donner à boire à un enfant, c'est pour ça que elle continue à recevoir la Touma, et si elle était tamée, elle a conservé sa Touma. Alors que ici, on voit que Rabbi Yochanan dit que même par rapport à sauf Touma d'une autre Touma que la Toumat Midras, pour la Toumat Met, on dit Amod Venaaseh Melachtenu, c'est-à-dire que si on ne peut pas l'utiliser pour l'utilisation d'origine, c'est plus tamé. La Gemara répond, Ipur Kamaita. Il faut inverser les avis de la première machloket. On a ici deux machloket avec Rabbi Yochanan. La première qui est entre Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan par rapport à la raison pour laquelle une cloche qui n'a plus de battant, elle continue quand même à être tamée. Et une deuxième machloket qui est la machloket entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on dit Amod Venaaseh Melachtenu par rapport à la Toumat Met ou pas? Et la Gemara dit que il faut inverser la première machloket et dire que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que la cloche conserve sa Touma parce que elle peut servir à faire du bruit encore, à tinter en la tapant contre un morceau d'argile. Donc là, elle a conservé son utilisation d'origine. Et Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina pense que pourquoi ça conserve sa Touma? Parce que on peut donner à boire à un enfant. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina pense effectivement que même si ça ne peut pas servir à l'utilisation d'origine, malgré tout ça conserve sa Touma. La Gemara demande moi chazit d'afar kamaita et pour batraita. Mais pourquoi est-ce que tu inverses la première machloket? Tu n'as qu'à inverser la deuxième. pourquoi est-ce que tu préfères inverser la première que la deuxième? Agmara répond, Hachaminan le Rabbi Yochanan de Baye Men Melacha Rishona. On a déjà entendu par ailleurs que Rabbi Yochanan pensait que il faut que l'objet puisse servir à son utilisation d'origine pour pouvoir être tamé. D'Etnan, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Sandal Shel Behema Shel Matechet Tamé. Donc une chaussure d'un animal en métal, elle reçoit la Touma. Donc c'est une sorte de chaussure en métal qu'on mettait à la bête pour protéger ses pattes, pour ne pas qu'elle se blesse. Et la Mishnah dit qu'elle reçoit la Touma. Et on demande l'Emaï Chazé, à quoi ça peut servir? C'est-à-dire pourquoi est-ce que ça reçoit la Touma si c'est seulement par rapport à l'utilisation de la bête, quelque chose qui sert de vêtements, comme ici de chaussures pour une bête, c'est pas une raison suffisante pour que ça reçoive la Touma. Les objets d'une béhéma, les objets d'un animal ne reçoivent pas la Touma, comme on avait vu plus haut, ni le tarchit, ni un bijou, ni quelque chose, un ornement d'une bête, ni ses habits, ni ses vêtements. Et donc ici, pourquoi est-ce que ça reçoit la Touma? Amar Rav, Rav dit, Raoui lishtot bo maim ba milchama. Il dit parce que on peut utiliser cette chaussure de la bête pour boire dedans de l'eau pendant la guerre. C'est-à-dire pendant la guerre, quand on n'a pas d'ustensile pour boire, on peut utiliser ça pour boire. Donc comme il y a aussi une utilisation qui peut servir à l'homme, c'est considéré comme un objet, comme un keli qui reçoit la Touma. Rabbi Chanina Amar, Raoui la souche bo shemen ba milchama. Rabbi Chanina donne une autre explication. Il dit parce que on peut mettre dedans de l'huile pour l'étaler sur son corps pendant la guerre. Là aussi, quand on n'a pas d'autres ustensiles pour mettre l'huile, on peut mettre dans cette chaussure de la bête. Rabbi Yochanan Amar, Bécha, Sheboreach min hakrav, Manicho beraglav, Veratzal kotzin valabarkanim. Rabbi Yochanan a dit parce que quand il se sauve de la bataille, il peut mettre cette chaussure à ses pieds. Donc ça veut dire il peut chausser la chaussure des animaux à ses pieds et courir avec sur les épines et sur les ronces, c'est-à-dire il peut se protéger avec. Donc il y a une utilisation qui est la même que l'utilisation principale. Donc on voit que Rabbi Yochanan exige que l'utilisation soit la même que l'utilisation principale, qui est celle de la bête, et qu'il ne faut pas que ça soit une autre utilisation comme les utilisations que Rav et Rabbi Hanina ont proposées. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense que ça doit être Mehen Melarto, que il faut que ça soit dans le même genre d'utilisation que l'utilisation principale ou dans notre cas que l'utilisation d'origine. La Gemara demande Maï ben Rav et Rabbi Hanina, quelle différence y a-t-il entre Rav et Rabbi Hanina, entre l'explication de Rav et de Rabbi Hanina? Ça veut dire que chacun a donné notre explication, mais finalement, le din est, d'après tout le monde, que c'est Mekabel Touma. Donc, la Gemara demande concrètement, où est-ce qu'on a un cas qui sera différent, où le din sera différent selon Rav ou selon Rabbi Hanina? La Gemara répond, Ikabinayu de maïs. La différence, c'est dans le cas où cette chaussure est sale, elle est répugnante. Donc, d'après Rav, ça ne peut pas servir à boire dedans, puisque c'est répugnant, c'est sale. Donc, ça ne recevra pas la Touma d'après lui, puisque c'est la raison pour laquelle c'est Mekabel Touma, c'est parce qu'on peut boire dedans, là on ne peut pas boire dedans, alors que d'après Rabbi Hanina, quand on peut mettre dedans de l'huile pour l'étaler sur son corps, donc ça reçoit la Touma. Et d'après Rav, ça suffit pas de pouvoir mettre de l'huile dedans pour l'étaler sur son corps pour que ça reçoive la Touma, parce que d'après Rav, c'est pas une utilisation qu'on fait pendant la guerre, parce que pendant la guerre on ne se soucie pas de mettre de l'huile sur son corps. Donc, il dit, il faut que ça soit une utilisation qui soit concrètement possible pendant la guerre. Donc, uniquement si c'est possible de boire à l'intérieur. Mais si c'est pas possible de boire, parce que c'est sale, donc c'est pas Mekabel Touma. Et la Gemara demande, Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina, quelle différence entre l'explication de Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina? La Gemara répond, Ika binayhu de yakir. La différence entre eux, c'est dans le cas où c'est une chaussure qui est lourde. D'après Rabbi Chanina, elle peut quand même servir à mettre de l'huile dedans pour l'utiliser à la guerre. Alors que d'après Rabbi Yochanan, comme l'utilisation doit être pour la porter soi-même à ses pieds pour se sauver, quand elle est lourde, il ne peut pas l'utiliser pour ça, donc ça ne sera pas Mekabel Touma. On revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Velo Beir Shelzav, qu'une femme ne doit pas sortir dans la rue pendant Shabbat avec Ir Shelzav. Mai Beir Shelzav. Et la Gemara demande qu'est-ce que c'est Ir Shelzav. Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim de Da'avar, Rabba Barbachana a dit non de Rabbi Yochanan, il s'agit d'un Yerushalayim en or. Donc c'était un bijou. D'après Rashi, c'est une sorte de broche sur laquelle on gravait une représentation de Yerushalayim. D'après d'autres Rishonim, c'est une sorte de couronne sur laquelle on gravait une représentation de Yerushalayim. Donc c'est un bijou que les femmes portaient. Et elle n'a pas le droit de sortir avec ça dans la rue, comme on avait vu donc pour les autres bijoux dans la Mishnah, de peur que elle l'enlève pour le montrer à ses amis qu'elle le porte dans la rue. Donc Rabba Barba Chanan dit dans Rabbi Chanan, Yerushalayim de Da'ava, donc c'est un Yerushalayim en or, qui est Da'ava de Rabbi Akiva le Devitou, comme ce que Rabbi Akiva a fait à sa femme. La Gemara dans Nedarim raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoie, et Rabbi Akiva à cette époque était encore un maharet, et donc Kalba Savoie était opposé à leur mariage, et il a donc fait le neder de ne pas les soutenir, de ne pas les aider, il leur a rien donné, et donc ils étaient très pauvres, et la Gemara raconte qu'ils n'avaient même pas un lit sur lequel dormir, donc ils dormaient sur de la paille. Et Rachel, la femme de Rabbi Akiva, avait de la paille qui s'attachait à ses cheveux pendant qu'elle dormait. Et Rabbi Akiva lui a fait la promesse. Il lui a dit si je suis plus riche, je t'offrirai un Yerushalayim en or, donc ce bijou de Yerushalayim en or. Et apparemment, la Gemara semble dire ici que finalement Rabbi Akiva l'a fait, a tenu sa promesse. Quand il est devenu plus riche, il lui a offert ce bijou. Tanou Rabanan, on enseigne à la Braïta, Lotetse Isha Beir Shelzahav, une femme ne doit pas sortir dans la rue avec Ir Shelzahav, donc ce bijou-là, Veim Yatzta Chayevet Chata d'Ivrei Rabbi Meir. Et si elle est sortie avec, elle est Chayevet Chata d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que c'est un issur Minatora. Va Chachamim Omrim, et Chachamim disent, Lotetse, elle n'a pas le droit de sortir avec, Veim Yatzta Ptura. Mais si elle est sortie avec, elle est Ptura, c'est pas un issur Minatora, mais Midi Rabanan. Rabbi Eliezer Omer, Yotza Isha Beir Shelzahav Lechatrila, et Rabbi Eliezer dit qu'elle peut même Lechatrila sortir avec ce bijou. La Gemara demande, Bema et Kamiflegé, quelle est leur machloquette? Rabbi Meir Savar Masoyru. Rabbi Meir pense que c'est une charge. C'est-à-dire qu'il ne considère pas ça comme un bijou. Alors il y a certains rishonim qui expliquent que c'est parce que selon Rabbi Meir, c'est pas fait pour être belle, c'est fait juste pour montrer son statut social, pour montrer que c'est une femme riche. Donc ça ne sert pas de bijou, à proprement parler, et donc c'est considéré comme un massoy, comme une charge. Verabanan savrait tarchitou, alors que Chachamim pense que c'est un tarchit, c'est un bijou, et Dilma Shalfa ou Mechavialé, Vatia la touye. Donc le risque, c'est qu'elle l'enlève pour le montrer à ses amis, et qu'elle le porte dans le Réchout Arabim. Verabeliezer ça va, hein? Mandarka lemipak beir shelzav, Isha Chashuva, alors que Rabbi Eliezer pense que qui sont les femmes qui ont l'habitude de sortir avec ce bijou de Ir Shel Zahav? Seulement les femmes importantes. C'était pas un bijou que les femmes ordinaires portaient, seulement les femmes importantes. Ve Isha Chashuva, lo meshalfa o mechavia. Et une femme importante n'enlève pas ses bijoux pour les montrer dans la rue. C'est pas de son honneur d'enlever ses bijoux pour les montrer. Donc, c'est pour ça qu'elle a le droit même de sortir avec les Khatrila, parce qu'il n'y a pas ce risque. Alors Tosfot précise que c'est seulement par rapport à ce bijou spécifique, comme c'est un bijou que les autres femmes, que les femmes ordinaires ne portent pas, et que c'est seulement les femmes importantes qui les portent, et chez les femmes importantes il n'y a pas ce risque, donc elles ont le droit de sortir avec dans la rue pendant Shabbat, d'après Rabbi Eliezer. Mais pour les autres bijoux, qui sont portés aussi par d'autres femmes, même si une femme importante les porte, elle n'a pas le droit de sortir avec dans la rue pendant Shabbat, elle n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat, parce que les Chachamim ont interdit ces bijoux sans faire de différence entre les femmes. La Gemara parle maintenant d'un autre bijou, Kalila, Rav Assar ou Shmuel Charé. Alors Kalila, c'est un bijou qui se porte, c'est un fronteau en fait, qui se porte sur le front et qui va d'une oreille à l'autre. Alors, ça ressemble, on avait parlé dans la Mishnah d'un bijou qui s'appelle Totefet, qui se porte aussi, c'est aussi un fronteau, mais ici, c'est une sorte différente, ça se porte au même endroit, mais c'est une autre sorte de bijou qui était porté par des femmes plus importantes que la Totefet. La Totefet, c'était un bijou plus ordinaire, ça c'est un bijou plus important. Et par rapport à ce bijou de la Kelila, Rav Assar ou Shmuel Charé. Rav a interdit aux femmes de le porter pendant Shabbat, et Shmuel permet. Et l'Agmara dit que, on va voir qu'il y a deux sortes de Kalila. Ce bijou-là, il existait en deux matières différentes, et l'Agmara va expliquer sur quelle sorte de bijoux Rav et Shmuel sont en machloket. L'Agmara dit d'Anisra koulé alma lo pligé d'assour. Si c'est un Kalila, un fronto, qui est fait entièrement en métal, en or ou en argent, là tout le monde est d'accord que c'est assour, parce que c'est un bijou important et elle risque de l'enlever pour le montrer. Qui pligé d'Arukta. La machloket entre eux, c'est lorsqu'il s'agit d'un fronto qui est fait en tissu, mais sur lequel on met de l'or et des pierres précieuses. Donc ça veut dire que il est orné d'or et de pierres précieuses, mais le bijou lui-même est fait de tissu. Mar savar anisraikar. Et donc le Rav qui a interdit pense que le principal dans ce bijou-là, même quand il est fait en tissu, mais c'est la partie de l'or et des pierres précieuses, et donc c'est important, et elle risque de l'enlever pour le montrer, et donc c'est assour. Ou Mar Savar Arukta. Alors que Shmuel pense que le principal c'est la partie du tissu, et donc comme c'est pas important, elle va pas l'enlever pour le montrer. Ravashi maintenait les Kula. Ravashi lui interprète la marloquette entre Rav et Shmuel la Kula. C'est-à-dire que lui, il dit l'inverse. De Arukta, des Kula, mal au pligé des charrés. S'il est fait à la base en tissu, c'est-à-dire que la partie principale c'est du tissu, là tout le monde est d'accord que c'est permis, qu'il n'y a pas de risque qu'elle l'enlève. Qui pligé d'Anisra, la machloket, c'est quand il est fait entièrement en or ou en argent. Mar savar din ma shalfa ou mechavia va télé atouillé. Rav a interdit parce qu'il pense qu'il y a un risque qu'elle l'enlève pour le montrer et qu'elle risque donc de le porter. Ou mar savar mandarka le mipak beklila isha chashuva, ve isha chashuva lo shalfa ou mechavia. Alors que l'autre dit, Shmuel, lui, pense que qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec ce type de fronto qui est fait entièrement en or ou en argent, c'est seulement les femmes importantes, et les femmes importantes ne risquent pas de l'enlever pour le montrer. Amar le Rav Shmuel bar Barchana le Rav Yosef. Rav Shmuel bar Barchana a dit à Rav Yosef, Befirush amar tlan mishme de Rav, kalila shari. Tu nous as dit explicitement au nom de Rav que ce bijou de Kalila est permis. Donc Rav Yosef, on sait que il est tombé malade et il a oublié ce qu'il avait étudié. Et Rav Shmuel bar Barchana rappelle à Rav Yosef, il lui a dit, tu nous as dit clairement, une fois au nom de Rav, que Kelila c'était permis, qu'on avait le droit de sortir, les femmes ont le droit de sortir avec ce bijou, ce fronto, pendant Shabbat. Et donc ça veut dire que ça vient appuyer l'explication de Ravashi, puisque selon la première explication que l'Agma a rapportée, Rav interdit dans tous les cas. Il n'y a que Shmuel qui permet quand il est fait en tissu. Alors que selon la version de Ravashi, Rav permet quand c'est fait en tissu, il interdit quand c'est fait en métal, en or ou en argent, mais il permet quand c'est fait en tissu. Donc, si Rav Yosef a rapporté au nom de Rav que c'était permis, c'est que forcément il pense comme Ravashi et que Rav, ce qu'il a permis, c'est un fronto qui est fait en tissu principalement. Amroulé les Rav. On a dit à Rav, Ata gavra rabba aricha le neardea ou matla vedarash qu'il est la charé. Donc on a dit à Rav qu'il y avait un homme tamid chacham et grand de taille qui est venu à Neardea et que c'est quelqu'un qui boite et qui a enseigné que une femme a le droit de sortir avec un fronto. Amar man gavra rabba aricha de itla Lévi. Et Rav a dit qui peut être ce Talmid Chacham grand de taille et qui boite, c'est forcément Lévi. Alors, la Gemara raconte dans Souka que Lévi, une fois, a fait une démonstration de ce que c'est Kida. Kida, c'est une manière de se prosterner, très particulière, où on s'appuie sur la pointe des pieds et qu'on plie son corps en deux jusqu'à avoir la bouche qui touche le sol. Et après, la difficulté consiste à se relever. Et lorsque Lévi a voulu faire la démonstration de ce que c'était Kida, il s'est fait mal et depuis ce jour-là, il boitait. Donc, Rav, quand il a entendu ça, il a dit, forcément, ce Talmid Chacham qui est venu à Néardéa, puisqu'il s'agit de quelqu'un grand de taille et qui boite, ça correspond à la description de Lévi. Shma Mina, et Rav a dit, je comprends de là, Nach Nafshe de Rabbi Afas, Ve'yativ Rabbi Chanina Berecha, ça veut dire que Rabbi Afas est Niftar, est décédé, et que Rabbi Chanina a pris sa place et est devenu Rosh Yeshiva à sa place. L'Agma dans Ketuvot raconte que lorsque Rabbi était mourant, il a nommé Rabbi Chanina Bar Chama, il a désigné Rabbi Chanina Bar Chama comme celui qui devait être à la tête de la Yeshiva, donc devenir Rosh Yeshiva. Et Rabbi Chanina Bar Chama a refusé d'être Rosh Yeshiva parce que Rabbi Afas était plus âgé que lui, il avait 2 ans et demi de plus que lui, donc il n'a pas voulu être Rosh Yeshiva alors que Rabbi Afas était plus âgé. Donc il a laissé la place à Rabbi Afas et c'est Rabbi Afas qui est devenu Rosh Yeshiva. Mais comme Rabbi Chanina était lui quelqu'un de plus grand que Rabbi Afas, il n'a pas voulu rentrer au Beit HaMidrash et être comme un Talmid devant Rabbi Afas, comme un élève. Donc il est resté à l'extérieur du Beit HaMidrash et Lévi, par respect pour lui, a été étudié avec lui à l'extérieur du Beit HaMidrash. Donc quand on dit à Rav que Lévi est venu à Néardéa, il dit, ça veut dire que Rabbi Afas est décédé, que Rabbi Chanina a pris sa place et est devenu Rosh Yeshiva, velo avale inesh le Lévi le mitav gabé. Et donc il n'y avait plus personne pour que Lévi étudie avec lui. Lévi qui était à l'extérieur du Beit HaMidrash avec Rabbi Chanina, il n'avait plus personne avec qui étudier. Vekatele, c'est pour ça qu'il est venu ici. Et Rashi explique parce que Rabbi Chanina ne pouvait pas rentrer. Parce que Lévi, pardon, ne pouvait pas rentrer au Beit HaMidrash où Rabbi Chanina était le Rosh Yeshiva, parce que Rabbi Chanina n'était pas plus grand que Lévi, ni en Torah, ni en âge. Donc Lévi ne pouvait pas être soumis à Rabbi Chanina, et c'est pour ça donc qu'il est venu à Néardéa. L'Agmara demande, Vedilma nach nafshe de Rabbi Chanina ve Rabbi Afas ke dekae kae. Mais peut-être que l'explication est différente, peut-être que c'est Rabbi Chanina qui est décédé. Rabbi Afas est resté Rosh Yeshiva, velo avale les inach les Lévi, les mitav gabé, et que, donc, puisque Rabbi Chanina est décédé, Lévi a perdu sa charouta, il a perdu la personne avec qui il étudiait, vekatela, c'est pour ça qu'il est venu ici à Néardéa. Agmara dit non. Imita de Rabbi Chanina shachiv, Lévi le Rabbi Afas mitav avakaifle. Si effectivement Rabbi Chanina était décédé, donc Lévi se serait soumis à Rabbi Afas et serait rentré au Beit HaMidrash, parce que Rabbi Afas était plus âgé que lui. Donc là, Lévi n'aurait pas eu de problème de se soumettre à Rabbi Afas et de rentrer au Beit HaMidrash et d'être comme un Talmid devant son Rav. Donc cette thèse ne tient pas. Et deuxièmement, Vetou, et en plus, des Rabbi Chanina l'osage de l'omalir, que c'est sûr que c'est pas possible que Rabbi Chanina finalement n'ait pas régné, c'est-à-dire ne soit pas devenu Rosh Yeshiva. Dit Chiyava kanicha nafshe de Rabbi Amar Chanina bar Rabbi Chama yativ berosh. Parce que quand Rabbi était sur le point de mourir, il a dit que Rabbi Chanina bar Chama serait Rosh Yeshiva, comme on a dit avant. Et c'est écrit à propos des tzadikim, vetigzor Et c'est écrit à propos des tzadikim que ce qu'il décrète, ça se réalise. Donc même si Rabbi Chanina, dans un premier temps, a laissé la place à Rabbi Afas, mais forcément, plus tard, il allait devenir Rosh Yeshiva, donc c'est pas possible que ce soit Rabbi Chanina qui soit décédé, et que Rabbi Afas soit resté Rosh Yeshiva. L'Agmara dit d'Arash Lévi ben Néardéa, quel est la charée? Donc on revient à ce qu'on a dit avant, Lévi a enseigné à Néardéa que le fronteau, les femmes ont le droit de le porter pendant Shabbat. Nafik esrin varba kelile mikula Néardéa. Et depuis ce moment-là, il y a 24 femmes qui sont sorties avec ce bijou, avec ce fronteau, dans tout Néardéa. Darash Rabba Baravua Bemechosa Kelil HaSharé. Et Rabba Baravua a enseigné également à Mechosa, donc une autre ville, que les femmes ont le droit de porter ce fronteau. Venafku Tamnesre Kelile Mechada Mevoa. Et là-bas, il y a 18 femmes avec ce bijou qui sont sorties de la même ruelle. C'est-à-dire, dans une seule ruelle, il y en avait 18, alors qu'à Nehardea, dans toute la ville, il y en avait 24. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Amar Rav Yehuda Rav Shmuel, pardon, Rav Yehuda a dit nom de Rav Shmuel, Kamara Charé. Alors, Kamara, c'est une sorte de ceinture, mais une ceinture luxueuse. On va voir qu'il y avait deux sortes de ceintures, un peu comme ce qu'elle est là. C'est d'ailleurs pour ça que la Gemara parle de ça ici. Apparemment, ça c'est une ceinture qui était portée par les hommes. Donc Shmuel, Rav Yehuda, au nom de Rav Shmuel, a dit que cette ceinture, on a le droit de la porter pendant Shabbat. Ika de Amré de Arukta. Il y en a qui disent que il s'agit de cette ceinture, mais quand elle est faite en tissu avec dessus de l'or et des pierres précieuses incrustées. Ve'amar Safra midi d'Ava Talit Mousrevet. Et Rav Safra a expliqué pourquoi est-ce que on a le droit de sortir avec, parce que c'est comme un vêtement qui a de la dorure, ça veut dire qui a aussi de l'or incrusté, etc. Donc c'est considéré comme un tarchit, comme un bijou, et on ne craint pas qu'on l'enlève parce qu'on n'a pas l'habitude d'enlever ni son vêtement ni sa ceinture dans la rue, parce que s'il enlève sa ceinture, ses vêtements vont tomber. Donc il n'y a pas de risque qu'il les enlève. Ika de Amré, mais Ika de Amré de Anisra. Il y en a qui disent que il a parlé de cette ceinture quand elle est faite entièrement en or ou en argent. Rav Safra a dit que c'est permis comme la ceinture des rois. Ça veut dire que la ceinture des rois était faite effectivement comme ça, entièrement en or ou en argent. Et bien que c'est quelque chose qui est porté uniquement par les rois, mais on considère que Kol Israël Bnei Melachim, tous les Bnei Israël sont considérés comme des Bnei Melachim, et c'est une ceinture qui leur convient. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est quelque chose qui ne leur convient pas, et donc qui n'est pas considéré pour eux comme un malbouche, comme un tarchit, mais comme les Bnei Israël sont considérés comme des fils de roi, donc effectivement ils ont le droit de porter cette ceinture pendant le Shabbat. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina a demandé à Ravashi, Kamara il avait Miana Mai. Si on porte donc cette ceinture spéciale, cette ceinture luxueuse, sur une ceinture ordinaire, est-ce que c'est permis ou pas? Amar le Tre Miene Kamant, il dit, tu parles de porter deux ceintures. Alors il y a deux versions qui sont rapportées dans Ravashi. Ravashi dit que ça veut dire que c'est sûr que comme la deuxième ceinture ne sert à rien, c'est considéré comme Matsoï, comme une charge qu'il porte, et donc c'est assourd. Et il y a une autre version qui dit que on a le droit de sortir avec deux ceintures, même si on a une qui est superflue, mais une ceinture par-dessus une autre ceinture, c'est aussi permis. Il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama à ce propos. Amar Ravashi a dit, Hayri Souka, Itle Mafracha Eta Acharé, Veilo Asir. Donc lui, il parle d'une autre sorte de vêtement. Les soukars, Rashi dit, c'est une sorte de manteau ample. Et il dit, s'il y a des cordons qui servent à l'attacher, c'est permis, et sinon c'est assourd. C'est-à-dire que s'il y a des cordons pour l'attacher, ça risque pas de tomber, et donc il risque pas de le porter. Mais sinon, il risque de tomber. C'est un vêtement, si on l'attache pas, il risque de tomber, donc il risque de le porter dans la rue, et c'est assourd. On revient à la Mishnah, on a dit à la Mishnah, Velo Bekatla, qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec un bijou qui s'appelle Katla. Mai Katla, c'est quoi Katla? Menakta Paare. Alors, on avait déjà vu dans la Gemara plus haut, Daf Nunzaïn Amoudbet, on avait déjà parlé de ce que c'était ce katla, c'est une sorte de tablier qu'elle porte. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Mankata Paare. Tosfot explique que c'est une sorte de tablier qui est fait pour recueillir des bouts de pain qui tomberaient. Donc, c'était à la fois un tablier, mais il était fait aussi très joliment, ça servait aussi comme un bijou, et qu'elles attachaient autour du cou, et donc elles n'ont pas le droit de sortir avec ça, parce que elles risquent de l'enlever pour le montrer à leurs amis, et donc le porter dans la rue. Nezamim, on a dit dans la Mishnah qu'elle n'a pas le droit non plus de sortir avec des anneaux, et la Gemara explique, Nizme Ahaf, il s'agit d'anneaux qui se portent au nez. À l'époque, les femmes avaient l'habitude de porter des anneaux au nez, donc ces anneaux sont interdits. Et Rashi explique, par contre, si c'est des boucles d'oreilles, là, elles ont le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que, à l'époque, les femmes, quand elles s'attachaient les cheveux, ça couvrait aussi les oreilles, donc leur foulard couvrait aussi les oreilles. Donc pour enlever les boucles d'oreilles, ça aurait été compliqué. Et donc il n'y avait pas de risque qu'elles enlèvent leurs boucles d'oreilles pour les montrer. Velo betabat shenaleh chotam. On a dit dans la Mishnah qu'une femme ne doit pas sortir avec une bague sur laquelle il n'y a pas de sceau, qu'il n'y a pas de cachet dessus, qui sert à cacheter les lettres, oui, qui sert à cacheter les lettres. Et la Mishnah a conclu en disant que si elle sort avec, elle n'est pas chayevet ratat. Donc c'est-à-dire que c'est seulement les sourds midérabanan que donc c'est considéré comme un bijou. A priori, c'est pas un massoï parce que c'est un bijou, mais comme il y a ce risque qu'elle l'enlève pour le montrer, donc c'est pour ça que c'est un sceau. Et la Gemara a déduit, Hayesh aleha chotam, chayevet. Ça veut dire que si c'est une bague sur laquelle il y a un chotam, un sceau, elle serait chayevet si elle sort avec, parce que là, c'est plus considéré comme un bijou. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah va dire plus loin, que elle n'a pas le droit de sortir avec une bague sur laquelle il y a un sceau, et si elle sort avec, elle est chayevet chatat. Pourquoi? Parce que pour la femme, c'est pas considéré comme un bijou. Les femmes n'avaient pas l'habitude de porter des bagues avec des sceaux. C'était quelque chose qui était exclusivement utilisé par les hommes. Les femmes n'utilisaient pas de cachet, donc pour elles c'est pas un bijou, et donc elle est chayvet ratat si elle sort avec. Donc l'agma a dit alma lav tarchitu, donc ça veut dire que c'est pas un bijou. Urminu, l'agma objecte, tarchite nashim tmeim, c'est écrit dans une braïta, dans une Mishnah pardon, c'est écrit que les bijoux des femmes reçoivent la touma, sont considérés donc comme un kelik et mekabel touma, ve'eluen tarchite nashim, et la Mishnah dit quels sont, voici ce qui est des bijoux de femmes, katalaot, donc katala c'est ce qu'on avait vu plus haut, donc cette sorte de tablier, nezamim, ici c'est des boucles d'oreilles, on va parler après aussi des anneaux du nez, vetabaot et des bagues, et la Mishnah détaille, vetabat ben sheyesh eleha chotam, ben. Quand on parle de bague, c'est peu importe si elle a un sceau ou si elle n'a pas de sceau, c'est considéré comme tarchite nashim. Donc on voit que la Mishnah elle cite ça comme tarchite nashim, même dans le cas où il y a un sceau. Donc c'est considéré comme un bijou. Donc c'est ça la question contre ce qu'on a dit précédemment. Et la Mishnah continue, venizme haaf, et également les boucles de nez, les anneaux qui se portent dans le nez. Et donc on voit d'ici, ça contredit ce qu'on a dit avant. On voit que c'est effectivement un bijou de femme, même s'il y a dessus un sceau. Amar Rabbi Zera, Rabbi Zera dit la kashia. C'est pas contradictoire. Ha Rabbi Nechemia, ha Rabbanan. Ça veut dire que notre Mishnah, de laquelle on déduit qu'une bague sur laquelle il y a un sceau, si elle sort avec, elle est chayevet ratat, elle va d'après Rabbi Nechemia, qui pense que la partie principale de la bague, c'est le sceau. Quand il y a une bague avec un sceau, donc la partie principale c'est le sceau, la partie de la bague est négligeable, donc c'est pas considéré comme un bijou, puisque le sceau, le cachet n'est pas un bijou pour la femme, donc le reste de la bague non plus n'est pas considéré comme un tarchit, alors que la Mishnah qu'on vient de citer, la Mishnah de Maseret Kelim, elle va d'après Chachamim, qui pense que la partie principale de la bague c'est l'anneau, et donc même s'il y a dessus un sceau, mais à partir du moment où c'est un anneau et que pour elle l'anneau est un bijou, on peut considérer ça comme un bijou pour la femme, même s'il y a un sceau dessus. Détania, alors où est-ce qu'on a vu cette machloket entre Rabbi Nechemia et Chachamim? On a une braïta qui dit Hi shel matechet vechotama shel almog tmea. Donc ça c'est une braïta qu'on avait déjà vu dans le pérek précédent, que si l'anneau de la bague est en métal et que le sceau est fait en corail, c'est une matière qui est considérée comme du bois, la bague est tméa, c'est-à-dire elle peut recevoir la touma. On avait expliqué qu'il y a une différence entre le bois et le métal par rapport à des kélim qui sont pshutim, qui n'ont pas de réceptacle, qui n'ont pas de bet kiboul. Pshuté Keliyat ne sont pas Mekabel Touma, alors que Pshuté Klematachot sont Mekabel Touma. Si c'est du métal, c'est Mekabel Touma, même s'il n'y a pas de Bet Kiboul, même s'il n'y a pas de réceptacle, alors que le bois ne reçoit pas de Touma s'il n'y a pas de Bet Kiboul. Donc là, la bague, ça a pas de réceptacle, donc c'est un clip Pashut, et il faut voir, lorsque la bague, l'anneau est d'une matière et le sceau est d'une autre matière, quelle est la matière principale pour définir est-ce que c'est pshuté kliyet ou pshuté klimatechet. Donc d'après cet avis, quand l'anneau est en métal et que le seau est en corail, elle reçoit la touma, c'est-à-dire que on considère que la partie principale c'est l'anneau. Yishal almog vechotama shel matechet teora. Tandis que si l'anneau lui-même est en corail et que le seau est en métal, c'est taor, parce que là la partie principale qui est l'anneau est faite en corail qui est considéré comme du bois et donc qui ne reçoit pas de touma tant qu'il n'y a pas de réceptacle. Donc ça c'est l'avis de Chachamim, Tanakama, Chachamim, alors que Rabbi Nechemia dit que dans ce cas-là c'est tamé, c'est-à-dire dans le dernier cas qui a été cité, quand l'anneau est en corail et le seau est en métal, c'est-à-dire que Rabbi Nechemia considère que la partie principale c'est le seau. Et dans le cas contraire, il pense que c'est taor, c'est-à-dire si l'anneau est en métal et que le seau est en corail, il dit que ce sera taor. Shaya Rabbi Nechemia Omer, parce que Rabbi Nechemia disait, Betaba telech achar chotama, pour une bague on va d'après le seau, c'est le seau qui définit est-ce que c'est du bois ou du métal et est-ce que c'est mekabel touma ou pas. Be'ol halach achar simlonav, pour le joug des animaux, on va d'après simlonav, c'est les pieux qui permettent de le fixer. Donc à l'époque, il faisait le joug, il était fait de deux barres de bois horizontales, une qui était posée au-dessus du cou de la bête et une en dessous du cou, et on fixait donc ces deux barres sur les côtés avec des pieux qui allaient de l'un à l'autre, d'une barre à l'autre, et ça pouvait être en métal, ces pieux pouvaient être en métal ou en bois. Et Rabbi Nechemia dit que ce qui va donner le statut de cliette ou de climatéchette au joug, c'est d'après les pieux, d'après la matière dont sont faits les pieux, et pas d'après les barres horizontales. Bekolav ala chacham asmerotav, pour un kolav, alors kolav c'était une sorte de présentoir que les commerçants avaient, qui était fait comme un cône, avec des donc un cône qui était placé verticalement, et il y avait dessus des clous qui étaient plantés sur lesquels ils accrochaient de la marchandise, et lui dit que c'est les clous qui vont définir la matière de ce présentoir. Besoulam alachach livotav, il dit pour une échelle on va d'après les échelons, la matière des échelons, donc pour lui c'est ça la partie principale. Bearsi alachach shelotav, pour une balance on va d'après les chaînes sur lesquelles sont accrochés les plateaux de la balance. Vachachamim omrim akol olech achar ha'ma'amid, alors que les chachamim disent que tout va d'après le ma'amid, c'est-à-dire d'après la partie principale sur laquelle les autres éléments sont attachés. Donc ça veut dire que pour la bague, on va d'après l'anneau, c'est le ma'amid, c'est-à-dire c'est le support sur lequel on met le seau. Pour le joug, d'après les barres horizontales. Pour le présentoir, on va d'après le cône lui-même et pas d'après les clous. Pour l'échelle, on va d'après les montants de l'échelle et pas d'après les échelons, parce que c'est la partie sur laquelle les échelons sont fixés. Donc c'est le support. Et pour la balance, on va pas d'après la chaîne, mais d'après la partie principale de la balance. C'est d'après la matière de ces parties-là qu'on va définir est-ce qu'il s'agit d'un cli en bois ou en métal. Colle tout.